Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Véronique Skalekens. Tu es avocate, médiatrice et également auditeur d'enfants et on va s'intéresser en particulier à ce rôle. Bonjour Véronique.
Bonjour Nadia.
Alors, avant de nous plonger dans ce que c'est que cette fonction d'auditeur d'enfants, quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé à être auditeur d'enfants ?
Alors, rien ne me prédestinait à devenir un jour auditeur d'enfants. J'ai commencé mon stage au barreau de Bruxelles en 99.
Donc, tu as fait le droit ?
J'ai fait le droit. Et à l'époque, je faisais principalement du droit civil et du droit commercial jusqu'à ce que je fasse un gros burn-out en 2014 et que je me réoriente. J'ai donc suivi une formation de médiation familiale et ça a été la révélation. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée à tous les aspects liés à la séparation parentale, à comment pouvoir aider les familles qui vivaient la séparation. Et donc, je me suis formée en médiation, en coaching en coaching parental et puis en audition d'enfants.
J'ai envie de te poser une question. Alors, si elle est trop personnelle, tu m'arrêtes. Mais tu me dis que tu avais fait un gros burn-out. Est-ce que c'était parce que tu ne supportais plus cette bagarre ? Parce que quand on est avocat en droit de la famille, on est toujours coincé entre des parents qui se font une guerre sans relâche et on voit les enfants au milieu souffrir. Est-ce que c'est ça qui a été très dur à supporter ?
Non. Alors, ce qui a provoqué mon burn-out, je pense, c'était le fait que je ne supportais plus le conflit, mais à l'époque, je ne faisais pas de droit familial.
Ah, d'accord.
Parce que la difficulté du droit familial et le conflit dans ces matières-là, pour moi, c'était déjà trop compliqué et donc je ne traitais pas de dossier dans cette matière-là.
D'accord. Et c'est par le détour de la médiation que tu t'es intéressée du coup forcément au divorce, aux séparations, etc. et à tout ce que ça implique en fait.
C'est ça. C'est la médiation qui pour moi a été une révélation et qui a fait que je me suis intéressée à toutes ces problématiques parce que à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que la médiation, c'était quelque chose de très peu connu. Mm-hmm. Et donc, il fallait la promouvoir, mais il fallait aussi aider les personnes qui souhaitaient divorcer à l'amiable ou en préservant en tout cas les enfants d'une autre manière que la médiation, parce que l'autre partie n'était pas toujours prête. Mm-hmm. Et donc, c'est comme ça que je suis revenue au barreau en droit familial pour favoriser les procédures plutôt de conciliation. Moi, je ne fais quasi plus de contentieux.
D'accord. Donc, contentieux, ça veut dire que tu n'as quasi plus de dossiers que tu présentes au juge où il faut se bagarrer contre l'autre partie.
Je ne me bats plus.
Non, ça, c'est mon objectif, mais c'est compliqué. Comment est-ce que tu y es arrivé à ça Parce que souvent, c'est les clients qui nous choisissent. Donc, comment est-ce que tu fais ? Tu les convaincs qu'il faut faire de l'amiable ou est-ce qu'ils viennent vers toi, sachant que toi, tu promeus plutôt la conciliation, la médiation ?
Oui, c'est plutôt ça, je pense. Effectivement, c'est les clients qui nous choisissent, mais avec les techniques actuelles, on a des sites internet, les gens savent avant de venir ici pourquoi ils viennent chez moi. Et il y a quand même toujours un petit filtre lorsqu'ils me téléphonent et qu'ils prennent rendez-vous. Si je sens que l'objectif, c'est d'en découdre, je leur donne le contact de consoeurs ou de confrères qui acceptent de travailler dans ce genre de contexte et je leur explique que moi, je ne suis pas la bonne personne pour eux.
C'est un petit peu comme ça que je fais, mais j'en ai encore quand même un peu du contentieux. C'est vrai que c'est beaucoup plus... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sain d'esprit de travailler dans l'amiable et de chercher des solutions avec le client plutôt que d'être dans une posture où on se bagarre.
Mais en tout cas, se bagarrer équivaut à laisser à un tribunal de prendre le contrôle de sa vie, en fait. Mmh. Puisque c'est le tribunal qui, à un moment donné, si les parents ne s'entendent pas, va devoir trancher. Et donc, c'est pas très responsabilisant comme approche, quoi.
Oui, c'est même infantilisant, mais bon.
Okay, après, donc... tout le monde n'est pas prêt à...
Non, mais c'est ça aussi. Mais je pense qu'il y a deux choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que
les gens ne savent pas qu'il y a cette culture de l'amiable en Belgique, alors qu'on est quand même précurseur en Belgique. On s'est quand même inscrit dans la loi qu'on nous invite à vraiment chercher une solution quand on est en pleine séparation. Et d'arriver devant le juge, si vraiment on a envie d'être rassuré par la présence d'un juge, ben on peut lui déposer un accord. Le juge joue ce rôle aussi de conciliateur parce qu'il y a des CRA, des chambres de règlement à l'amiable. On peut aller voir un médiateur. C'est aussi très méconnu, alors que le médiateur, c'est beaucoup plus rapide et ça coûte...
deux fois moins cher.
Deux fois moins cher, parfois moins que deux fois moins cher. Mais les gens n'ont pas ce réflexe de se dire « Ok, j'en veux à mon ex parce que, pour une série de raisons, mais il y a moyen, parce que souvent il y a des enfants au milieu, il y a peut-être moyen de mettre sa rancœur de côté ou en tout cas de travailler sur sa rancœur et d'arriver à un accord qui soit équilibré et qui rencontre l'intérêt des enfants, c'est-à-dire qui font que les enfants vont se sentir plus à l'aise. Est-ce que c'est comme ça que tu conçois les choses ?
Oui, mais je pense quand même qu'il y a une certaine culture qui se développe et que c'est de plus en plus connu, ce système de médiation, même si on n'est pas encore à l'objectif final, mais les nouveaux avocats, les jeunes qui arrivent, ils sont quand même formés autrement. Moi, j'ai été formée à être un pitbull. Hein. Quand j'ai commencé mon stage, on nous disait, vous devez gagner, que ce soit en matière familiale ou dans un autre contentieux, on était là pour gagner. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le nouveau rôle de l'avocat, c'est plus d'accompagner, d'aider à la conciliation, à la négociation. Et donc, j'ai bon espoir pour l'avenir.
Mmh. Ok, donc, burn-out, revirement dans ton pratique du métier d'avocat, et tu arrives, donc à la suite de ta formation en médiation, etc., tu arrives à faire du droit de la famille, mais presque plus de contentieux et beaucoup d'amiables. Et le cheminement ensuite, c'est quoi ?
Ben, le cheminement ensuite, c'est que je suis toujours en recherche d'outils pour aider les familles que j'accompagne. Je suis de ces médiateurs qui pensent qu'il est important d'intégrer les enfants à la médiation, et donc je le fais déjà depuis quelques années. Et puis j'ai eu vent de ces DU d'auditeurs d'enfants qui se...
Oula, tu vas un peu vite en besogne.
Ok.
Donc, quand tu dis « j'intègre les enfants », donc quand tu as un couple, par exemple, qui te contacte en disant « voilà, on se sépare ou on est déjà séparés, on n'a pas envie de se bagarrer devant un juge, on a envie de faire appel à un médiateur », ils prennent rendez-vous avec toi, et donc... Généralement, bah, ce sont les parents qui travaillent ensemble et comme ils sont responsables de leurs enfants, donc ils ont ce qu'on appelle l'autorité parentale, beaucoup de parents ne voient pas l'intérêt d'intégrer leurs enfants. Toi, tu as une autre posture qui est de dire bah non, c'est toute la famille est impliquée, est impactée par cette séparation et donc tu fais venir les enfants ici, puisqu'on est, on est chez toi, ici dans ton bureau et tu les entends aussi de la manière que tu entends les parents ?
Alors oui, je propose aux parents, alors parfois ils ne sont pas super chauds par le fait d'intégrer les enfants parce que ce sont des parents qui ont déjà pu faire circuler l'information, prendre en compte les besoins des uns et des autres. Et donc on voit très vite quand les gens arrivent si l'intérêt des enfants a pu être pris en compte. Mais parfois les médiations sont très très conflictuelles et les gens ne se sont pas parlé avant d'arriver dans mon bureau.
Ok.
À ce moment-là, je leur propose, parce que souvent ils sont eux-mêmes pas d'accord sur ce que serait une décision qui prend en compte le bien-être de leurs enfants, ben je leur dis, le moyen le plus simple de savoir ce qu'en pensent vos enfants, c'est de les inviter ici. Et donc, je reçois les enfants pour discuter un petit peu avec eux de la séparation, de quels sont leurs besoins, de comment est-ce qu'ils se sentent, des suggestions qu'ils auraient à faire à papa et maman. Et puis, je renvoie aux parents lors d'une séance suivante ce que leurs enfants ont dit et ont accepté que je relie à leurs parents pour relancer les discussions par rapport à ça. Okay. Alors, il faut savoir que j'ai aussi une pratique de médiation judiciaire sur l'arrondissement de Dinan, où là, on est dans du haut conflit. Hein, donc, ça, c'est souvent le tribunal qui qui s'est bien rendu compte que les parents traînaient depuis longtemps un conflit et qui donc renvoient les parents vers une médiation. Mmh. Et à ce moment-là, c'est pas une option que les enfants interviennent. Et souvent, le tribunal l'indique dans son dispositif, donc désigne.
Donc le dispositif, pour ceux qui ne sont pas familiers, oui, avec les termes juridiques, donc c'est la partie qui est à la fin du jugement, qui est entre guillemets obligatoire. C'est la décision du juge. Et donc, à Dinan, le juge, quand il envoie en médiation, il dit voilà, je décide de vous envoyer en médiation, je paraphrase, hein, madame, monsieur, et je décide que les enfants doivent être entendus dans le cadre de cette médiation pour qu'on tienne compte de leur intérêt.
Tout à fait.
Ok. D'accord. Et donc, tu entends les enfants sans les parents, c'est pour que leur parole soit plus libre ?
Oui, c'est pour qu'il n'y ait pas... oui, c'est pour que la parole soit libre, parce que parfois les enfants me disent des choses qu'ils ne veulent pas que je répète à papa et maman.
Ok. Donc ça, tu t'assures à chaque fois que de la confidentialité ou non. Donc tu leur demandes, ça, est-ce que j'ai le droit de le dire à papa ou maman ?
Oui, donc okay, on fait la séance, et puis après, je leur dis, voilà, de tout ce que tu m'as confié, de tout ce dont on a parlé, qu'est-ce que je ne peux pas dire à papa et maman ? Plutôt dans ce sens-là.
D'accord, ok.
Et alors, il y a certains enfants qui me disent, ah ben ça et ça, je ne veux pas que tu le dises. Et puis d'autres disent, bah, tu peux tout dire, et c'est pas un souci, quoi.
Uh-huh. Et... de manière générale, alors j'aime pas faire les généralités, mais comment est-ce que les parents reçoivent, parce que tu leur fais un rapport de ce que l'enfant a dit, comment est-ce qu'ils reçoivent ce qui a été dit, ce que leur enfant ou leurs enfants ont évoqué par rapport à leur conflit ?
En général, très bien. Après, il y a une manière de leur dire.
Hein. Oui, bien sûr.
Mais... c'est pour moi un levier vraiment très important.
Oui.
Parce que souvent, dans le cas de séparation, on est dans de telles souffrances que les parents, ils sont le nez dans leur guidon. Mm-hmm. Et donc, le fait que quelqu'un de neutre, d'impartial, puisse leur renvoyer, tiens, ben, la préoccupation de votre enfant, c'est celle-là, il m'a confié qu'il aurait besoin de ceci ou de cela, ben, ça remet les parents au travail. Mmh. Très souvent.
Est-ce que tu as un exemple précis ? Parce que moi, je trouve que les exemples, c'est toujours beaucoup plus parlant que de la théorie. Est-ce que tu as, bon, sans trop révéler, parce que tu es bien sûr tenu par le secret professionnel, mais un cas où vraiment les parents ont eu comme une espèce de choc en se disant « Ah mince, en fait, on est en train de se bagarrer et notre gamin est en train de souffrir, en fait. » Parce que souvent, ils ne s'en rendent pas compte.
Non, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont englués dans leurs difficultés. J'ai eu récemment deux petites jumelles, mm-hmm, avec des tempéraments vraiment hyper différents. Et l'une d'elles ne voulait absolument pas que je dise beaucoup de ce qu'elle m'avait confié. Donc elle est venue vérifier sur mes notes que ce qui se trouvait sur mes notes, c'était ce que je pouvais dire. Et puis sa sœur, elle était hyper ouverte et elle disait « Si, papa et maman peuvent tout savoir. » Et en fait, le principal souci de ces petites, c'était que quand elles étaient chez papa ou quand elles étaient chez maman, elles ne pouvaient pas avoir de contact avec l'autre parent. Et ça, pour elles, c'était vraiment, vraiment très, très compliqué. Et donc, j'ai pu relayer aux parents lors d'une séance commune que vraiment... d'abord, il y avait dans le chef de leur fille un souci très très important de garder l'église au milieu du village, mais que quand même, ça c'était compliqué. Et que ça, je leur proposais d'essayer de trouver une solution entre eux parce que ça faisait vraiment souffrir leur petite fille qui, pour le reste, parvenait
à naviguer
dans les eaux un peu troubles liées à la séparation parentale, mais ça c'était vraiment trop compliqué pour elle.
Et ça oui, y a eu une prise de conscience.
Il y a eu une prise de conscience et bah, la séance d'après, ils m'ont dit oui, maintenant les filles peuvent appeler papa quand ils sont chez maman et appeler maman quand ils sont chez papa. Et voilà, ils ont compris que au-delà de leur difficulté de se dire c'est ma semaine avec les enfants et je veux pas d'interférence de l'autre parent, que c'était leur besoin à eux, mais que le besoin de leur enfant, c'était pas ça, quoi.
D'accord, ok. Donc... tu intègres les enfants dans les médiations, tu les entends, dans l'objectif que les parents, dans la décision qu'ils vont in fine prendre, qu'ils intègrent ce qui est bon pour leur enfant, qu'ils entendent les besoins de leurs enfants. Et quel a été le cheminement suivant ?
Alors, le cheminement suivant, c'était que j'ai eu vent donc, de ce diplôme universitaire qui se donnait à Paris sur l'audition d'enfants. Mm-hmm. Et que, dans un premier temps, j'y suis allée pour améliorer ma façon de recevoir les enfants en médiation.
Donc, tu venais chercher des techniques, des petits trucs pour mieux accueillir les enfants.
Oui, oui, entre autres. J'avais envie d'approfondir un petit peu la question. Et puis, quand je suis arrivée au premier jour, je me suis rendu compte, en fait, que nous, en tant qu'adultes, on laissait quand même une place très, très... on laisse très peu de place. L'enfant est encore, aujourd'hui, considéré plutôt comme un objet que comme un sujet de droit.
C'est violent, ce que tu viens de dire.
Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, en Belgique, il faut quand même avouer que... l'enfant n'a pas vraiment droit au chapitre dans ce qui concerne... Enfin, moi, je veux vous parler de la séparation parentale parce que c'est mon rayon. Aujourd'hui, l'enfant, il n'a pas grand-chose à dire. Si ses parents se séparent par consentement mutuel ou si ses parents se séparent par la voie d'une médiation ou par la voie de la conciliation, on considère que les parents ont pris la meilleure décision possible pour leur enfant. Or, les textes internationaux prévoient quand même que les enfants ont la possibilité d'exprimer leur opinion dans toutes les matières qui les intéressent. Et donc, on fait un raccourci très très rapide en Belgique en se disant « moi, parent, je sais ce dont mon enfant a besoin ». Or, peut-être pas. Peut-être que on n'a pas suffisamment communiqué, peut-être que la situation est tellement difficile qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé de ce que pensait l'enfant. Et ça, ce dispositif d'auditeur d'enfant permet vraiment de s'assurer que l'enfant ait une juste place, en fait, dans le processus décisionnel.
Ok. Donc, si je comprends bien, il y a des textes ou un texte international, en tout cas, qui dit que chaque fois que cela concerne la vie de l'enfant, il faut lui demander son avis. Je paraphrase, c'est probablement pas comme ça que ça a été écrit, mais en gros, c'est ça l'idée. Et est-ce que c'est transposé en Belgique ? Ça doit être transposé d'une manière ou d'une autre. Et comment est-ce que c'est transposé en Belgique ?
Alors, ça devrait être transposé d'une manière ou d'une autre. En Belgique, il est prévu que les enfants soient entendus. Enfin, il était prévu avant ce matin, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 avril et qu'il y a une loi du 27 mars 2024 qui est un petit peu venue changer la donne. Mais donc en Belgique, en principe, les enfants à partir de 12 ans reçoivent une invitation à être entendus par le tribunal lorsque les parents se séparent devant le tribunal. Mmh. Or, il y a plein d'autres manières de se séparer, que ce soit un consentement mutuel, que ce soit un accord de médiation homologué par le tribunal. Et dans toutes ces circonstances-là, l'enfant n'est pas entendu. Il n'y a pas une obligation d'entendre l'enfant. Et c'est ici que... c'est là que l'intérêt du dispositif d'audition amiable trouve tout son sens. Mmh. Parce qu'avec ce dispositif, on encourage les médiateurs, les avocats qui font des divorces par consentement mutuel de prendre en compte d'une manière ou d'une autre l'intérêt de l'enfant, mais on sait que l'avocat déontologiquement n'a pas la possibilité de recevoir les enfants, et donc moi je propose mes services pour entendre l'enfant et relayer aux parents, que ce soit dans un processus de consentement mutuel ou si les parents font une médiation, on ne sait jamais, médiateur qui n'est pas formé ou à l'aise avec le fait de recevoir les enfants, de recevoir l'enfant et puis de faire rapport aux parents de cette manière-là, sur ce qui les intéresse et sur ce qui les interpelle ou sur leurs besoins.
Oui. Mais c'est vrai que j'ai parfois des parents qui m'interpellent en me disant « mais c'est tellement conflictuel avec mon ex, est-ce que mon enfant ne pourrait pas avoir un avocat et par la voix de son avocat aller dire à l'audience ce qu'il veut ?» Et malheureusement, bah, c'est pas prévu.
C'est pas prévu.
Ce n'est pas prévu, non. Alors que ça aurait du sens, en fait. Alors oui, il y a un avocat pour l'enfant en matière jeunesse, voilà, dans des choses extrêmement compliquées et conflictuelles, mais pas dans le cadre des séparations des parents. Et qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose ?
Mais oui, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, à côté de ce dispositif d'auditeur amiable, où à nouveau, ça ne dépend que de la bonne volonté des parents, je suis désignée régulièrement maintenant par les tribunaux pour faire de l'audition sous le couvert de la procédure judiciaire, pour entendre les enfants principalement de moins de 12 ans, lorsqu'il y a un conflit entre les parents par rapport notamment à des questions d'hébergement, de droits aux relations personnelles. Et donc par ce biais-là, l'enfant peut avoir voix au chapitre, j'ai envie de dire.
Ok. Donc, mais j'ai fait un épisode que j'ai diffusé, mais c'est l'épisode juste avant où j'explique comment se passent les auditions avec le juge, donc notre discussion d'aujourd'hui vient en complément. Et donc si je comprends bien, donc, soit tu peux intervenir et entendre les enfants dans des procédures en dehors du tribunal, donc amiable, mm-hmm. médiation, conciliation, etc. Et tu peux également être désigné par un juge quand il se rend compte que dans le dossier, bah, peut-être que l'avis de l'enfant est nécessaire, parce qu'il faut rappeler que les juges, eux, ils entendent les enfants, mais ils ne sont pas forcément formés. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres un petit peu moins à l'aise, et donc c'est souvent des questions très génériques, et ils n'ont pas l'opportunité, et ils ne sont pas formés pour aller creuser un petit peu plus loin. Donc,
ils ne sont pas formés pour aller creuser un peu plus loin, et surtout, ils reçoivent les enfants dans un cadre qui est quand même un peu
au tribunal.
Austère. Au tribunal, avec probablement dans la tête des enfants beaucoup de... Je ne sais pas comment dire, mais les enfants sont probablement très très impressionnés de bien se sûr. Retrouver devant le juge qui va décider de la vie de papa et maman. Or, dans le cadre des expertises que je propose, on est dans un cadre beaucoup plus sympa. Tu vois ici, j'ai mes Lego, oui. J'ai mes Little People, j'ai toute une série d'outils qui permet à l'enfant de s'exprimer parfois par d'autres biais quand ils sont un peu plus petits. Et surtout de se sentir entendu, en fait. Mm-hmm. Le sourire d'un enfant quand il a été entendu et quand il a la conviction que sa parole va pouvoir être relayée chez papa et maman, ça n'a pas de prix.
Mm-hmm. C'est hyper intéressant. Mais alors, du coup, lors de cette formation, qu'est-ce que tu as appris ? Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce qui fait que... toi, aujourd'hui, tu as les outils pour entendre un enfant ?
J'ai appris plein de choses dans cette formation. on a eu des techniques d'audition, on a été sensibilisés au développement psychologique de l'enfant. Mais finalement, moi, ce que j'ai retenu mm-hmm. De fondamental, et fallait peut-être pas faire un DU pour s'en rendre compte, mais bon, moi, j'ai eu besoin d'arriver au bout du processus, c'est qu'un enfant, il a juste besoin de pouvoir... s'exprimer. Aujourd'hui, on éduque un peu nos enfants différemment qu'on les éduquait il y a une ou deux générations. Hein. On fait en sorte que l'enfant ait un esprit critique. Donc, d'un côté, on essaye de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer, mais quand il s'agit qu'il s'exprime dans les matières qui l'intéressent, là, on le cadenasse un peu. Et donc, simplement, le fait d'ouvrir un espace en lui disant « mais toi aussi, t'es impacté par la séparation parentale. Tu es sans doute le premier impacté. Qu'est-ce que tu en penses ? Mm-hmm. Comment est-ce que tu vis les choses ? Est-ce que tu as des idées à partager à papa et maman pour que ça se passe mieux ? C'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens.
Donc, ce que tu étais en train de me dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, bah, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, les enfants rois. C'est plus tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont une place dans la famille, ils s'expriment un petit peu plus. Et tu as le sentiment qu'une fois que les parents se séparent, c'est de nouveau verrouillé et on ne tient plus compte de ce qu'ils disent,
ben oui,
de ce qu'ils pensent.
On a souvent quand même... Mais parce que la séparation est difficile et parce que c'est pas facile d'ouvrir un espace de communication... Quand on est dans le conflit, bah à ce moment-là, c'est sans doute plus simple pour le parent de dire bah, on va décider quoi.
Mm-hmm.
Et l'enfant, il va suivre. Alors, oui. Avec des petits-enfants, ça fonctionne. Hein. Essayez un peu avec des ados.
Bah, souvent, ça clash. Hein.
Ça clash.
Mm-hmm. Quand est-ce que tu as terminé ce diplôme, ce DU en audition d'enfant?
J'ai terminé en mai 2022 ou 2023, je ne sais plus maintenant.
Moi, j'ai l'impression que c'était 2023.
Oui, mais c'est ça il y a un an. Oui.
Il y a un an. C'est un diplôme en quoi? En un an ou en deux ans?
Un an.
Un an, ok. Donc, tu allais à Paris toutes les semaines?
Non, c'était deux jours. Donc, c'est deux jours tous les mois ou toutes les trois okay. semaines. Non, d'accord. C'était...
Et puis, sanctionné par... Enfin, il y a un examen qui...
Il y a une présentation orale sur d'accord. un sujet...
Ok. Et donc, depuis, est-ce que tu as pratiqué en tant qu'auditeur d'enfants, soit parce qu'un tribunal t'a désigné, ou est-ce que des parents t'ont demandé spécifiquement de recueillir l'avis de leur enfant?
Alors, dans mes médiations tout le temps,
oui.
j'ai été consultée à quelques reprises par des médiateurs qui ont souhaité que j'entende les enfants dans le cadre des médiations qu'ils traitaient parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour les recevoir eux-mêmes. Mais principalement, c'est quand même des mandats judiciaires.
D'accord.
Parce que c'est un processus, enfin c'est un dispositif qui n'est pas encore super connu en Belgique. Alors avec la modification législative, peut-être que ça va ouvrir un nouvel essor à ce processus, mais on verra mm-hmm. ce que l'avenir nous réserve.
Et donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as été désigné pour entendre des enfants par un ou plusieurs juges, mais que finalement, c'est pas très, entre guillemets, très en vogue en Belgique.
Ah non, mais je suis la seule, j'étais la seule à suivre le DU à Paris. Personne ne l'avait suivi l'année d'avant, puisque c'est très récent comme DU. Et à ma connaissance, cette année-ci, c'est la troisième année qu'il se donne. Il n'y a pas de Belges non plus, donc c'est sûr que c'est un dispositif qui n'est pas super connu. Après, c'est hyper fort utilisé au Québec, et donc comme la Belgique suit le Québec avec quelques années de retard, ça va arriver.
Là, on peut s'imaginer qu'effectivement, avec un petit peu de retard, on suivra le mouvement. Tu me disais tout à l'heure que tu voyais dans le regard de l'enfant que c'était important pour eux d'être entendus. Mais est-ce que tu vois d'autres bénéfices à intégrer l'audition d'un enfant dans un processus, quel qu'il soit judiciaire ou qu'il soit amiable?
Mais... Je constate que ça remobilise les parents.
Mmh.
Lorsqu'on se trouve dans une situation de blocage où chacun des parents est convaincu que ce qu'il pense être le bien-être de l'enfant, c'est sa façon de voir les choses, quand on remet un peu de communication et qu'on leur dit « mais en fait, votre enfant, lui, en fait, il pense ça
mmh. »,
ben, les parents se remettent en mouvement. Je trouve vraiment que le fait... qu'un tiers qui est... Parce que quand j'interviens... Alors, en médiation, j'ai un peu une double casquette parce que j'ai entendu les enfants, je restitue et puis je travaille avec eux ce qui a été partagé. Mais en audition, mon rôle se borne à entendre l'enfant et puis à restituer ce que l'enfant dit. Et donc, moi, j'ai pas de... Il n'y a pas d'enjeu de ma part
oui.
Par rapport à ce que l'enfant a dit. Je n'ai pas à être convaincue par l'un ou convaincue par l'autre. Je suis... le simple dépositaire de ce que l'enfant pense et je ne fais que être son porte-voix en quelque sorte.
Oui.
Et donc, il n'y a pas d'enjeu pour eux, si ce n'est de se remobiliser autour du bien-être de leur enfant.
Et d'avoir enfin une autre perspective, c'est comme sortir de son corps et de se mettre dans les chaussures de son enfant et de se rendre compte à quel point
mais oui, c'est sûr.
Il peut souffrir parce que ses parents ne se parlent pas ou oui. parce qu'ils se parlent mal ou parce que carrément, certains parents se font carrément des crasses. Donc c'est extrêmement douloureux pour les enfants. Et ça, je pense que c'est important de le dire.
Oui.
Mmh. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ce rôle d'auditeur d'enfant? C'est nouveau, donc c'est un petit peu difficile de se projeter. De se projeter.
Ben, que vous dire d'autre, sinon que j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va se prendre de l'ampleur, parce qu'il faut vivre avec notre temps.
Mm-hmm.
Et notre temps, c'est donner... vivre avec notre temps, c'est vraiment... tu disais tout à l'heure que j'y allais un peu fort en disant qu'on prenait l'enfant pour un objet plutôt que pour un sujet.
Mm-hmm.
Mais je crois que l'avenir quand même de nos sociétés, c'est de prendre en compte l'opinion de tous. Parce que voilà,
c'est nécessaire.
C'est nécessaire.
Et qu'est-ce que tu dirais à un parent qui va te dire oui, mais c'est quoi cette nouvelle mode d'en faire des gâtés pourris et qui décide alors que nous, on est des adultes ?
Alors, oui, bah ça, tu fais bien de le dire parce que l'enfant n'est pas. Alors, c'est évident que quand je reçois l'enfant, je cadre tout de suite les choses pour qu'il n'ait pas le sentiment que c'est lui qui va décider. C'est pas du tout l'objectif de l'audition d'enfant. Hein. L'audition de l'enfant, c'est qu'il puisse s'exprimer. Après, parce que c'est un enfant, ben c'est pas lui qui décide, c'est papa et maman qui vont décider. Mais ils vont décider en ayant d'autres éléments en main pour prendre leur décision. Et ça, c'est effectivement le béaba. On aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs tout à l'heure. C'est que non, l'enfant est entendu, l'enfant s'exprime, mais l'enfant ne décide pas.
Oui, et pour ça, je renvoie à l'épisode précédent dans lequel je l'explique très bien. C'est que, y compris le juge, quand il écoute l'enfant, c'est pas pour lui demander son avis et suivre son avis. C'est juste pour comprendre quel est le contexte de vie qu'il a et comment ça se passe pour lui et qu'est-ce que lui voudrait dans un monde idéal. Mais c'est pas parce que lui voudrait quelque chose dans un monde idéal que forcément le juge va aller dans ce sens-là ou que les parents vont aller dans ce sens-là. Et donc, je trouvais que c'était important quand même de rappeler que l'enfant, ce que tu essayes de nous dire, c'est que l'enfant, bah, il doit avoir une place, mais qu'au final, les parents décident quand même. Et dans un contexte comme celui dans lequel tu t'inscris, bah, c'est qu'ils essayent de prendre la décision à deux et qu'il soit la meilleure possible pour le petit.
C'est ça. Donc l'enfant doit avoir une juste place.
Oui.
Ce n'est pas un enfant roi.
Eh bien, ce sera la conclusion de
notre... Le mot de la fin.
Le mot de la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup, Véronique, pour ton temps.
Merci, Nadia.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.